Bonjour à tous. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, un hashtag paye ton auteur et un ras-le-bol, surtout celui des plumitifs qui dénoncent les pratiques aujourd'hui de l'édition et le nouveau régime qu'on leur prépare. La création à quel prix? À partir de 12h55, on en parle avec le sociologue Pierre-Michel Menger, notre invité. Il est l'auteur du Travail créateur. Il nous rejoindra donc après le journal d'Antoine Mercier. Mais d'abord, une leçon d'écriture pour ceux qui souhaiteraient s'y mettre par l'un des maîtres du genre. Dans Lettre à un jeune auteur, publié chez Belfond, Colomb McCann, distille ses conseils et réfléchit au sens de la littérature. Avant Vannes, où il sera ce week-end pour son salon du livre, l'auteur irlandais de « Et que le vaste monde poursuive sa course » ou encore de « Transatlantique », Colomb McCann est notre invité à écouter tout de suite sur France Culture ou plus tard, si vous le souhaitez, sur franceculture.fr.
La grande table. Olivia Jesbert.
Dans ses lettres à un jeune auteur, il rend hommage à la littérature. Elle seule nous rappelle que la vie n'est pas déjà écrite. Bonjour Colomb McCann.
Bonjour.
Et bonjour à votre voix française, Xavier Combes.
Bonjour.
Même exilé à New York, Colomb McCann, on ne vous imagine pas indifférent au vote le 25 mai dernier d'une majorité d'Irlandais pour la légalisation de l'avortement. C'est une lumière dans l'obscurité.
Yeah, it was an incredible moment. I mean, I grew up in Ireland that.
Oui, c'était un moment incroyable.
Had no divorce.
Moi, j'ai grandi dans une Irlande où il n'y avait pas de divorce, hors de question d'envisager l'avortement. Un pays gangréné, si je puis dire, par l'Église catholique. L'Irlande est un pays complètement différent aujourd'hui.
Well, you know, one of the things that I'm excited by is that
ce qui me plaît le plus là-dedans, c'est que enfin on reconnaît les droits des femmes. Elles ont le droit de dire qu'elles ont leur propre corps et la voix des femmes irlandaises est une voix que l'on entend désormais. Ça, c'est tout nouveau. Ma mère à Dublin, qui a 91 ans, qui avait 91 ans, a voté en faveur de l'avortement. Donc elle a 91 ans et elle a voté pour l'avortement. Imaginez cette femme qui a grandi dans l'Église catholique irlandaise. En fait, elle était insatisfaite de tout ce qui s'est passé avec les prêtres, les nonnes. Et il y a eu un retour de flamme incroyable. Mais c'est un pays qui arrive dans le 21e siècle à grande vitesse. Et ça me réjouit. Particulièrement parce que aujourd'hui, je vis à New York. Et les États-Unis, c'est un pays qui recule. Peut-être que je vais revenir en Irlande, d'ailleurs.
Quand vous êtes parti d'Irlande à 20 ans, quand vous avez commencé à voyager, que vous êtes allé pour la première fois vivre aux États-Unis avant d'entamer un long voyage, c'était une des raisons qui vous a poussé à partir, l'envie d'aller voir l'ailleurs, l'envie aussi d'aller peut-être dans un pays dit de liberté et de quitter votre Irlande où vous pourriez revenir aujourd'hui?
Yeah, I did. I mean, I wasn't forced away for economic reasons. Many of my
schoolmates were. Je n'ai pas quitté l'Irlande pour des raisons économiques, contrairement à certains de mes copains de l'époque. Mais moi, j'étais curieux. Je voulais voir le monde. Mais je me sentais un petit peu emprisonné par cette église catholique. Et puis, je voulais faire mon petit Kerouac. J'avais 20 ans, 21 ans. J'arrive aux États-Unis. Je me souviens, j'avais pris un vélo. J'ai fait du vélo pendant 2 ans partout aux États-Unis. Je dormais à la Belle Étoile tout le temps, dans les montagnes, près des rivières. J'ai rencontré des tas de gens différents. Et je pense que je suis arrivé de plein pied dans une démocratie du récit. Tout le monde avait un récit, une histoire à raconter. D'ailleurs, mon fils, qui a 19 ans, vient d'arriver en France. Et il a l'intention de marcher tout l'été. Il veut avoir cette même expérience à la Kerouac, lui aussi. Il veut rencontrer des gens, se promener, se balader, rencontrer des Françaises. Et j'en doute pas. Il a cette notion un peu romantique, fantasmagorique de Kerouac en France.
Bon, mais il fait bien. La France a bonne réputation, les Françaises aussi, si nous pouvons l'attirer. Est-ce qu'il écrira lui aussi? Est-ce que ce livre, Lettre à un jeune auteur, est destiné aussi à votre fils? Il l'est à tout aspirant écrivain et il l'est également à vous-même, écrivez-vous, Colomb McCann. Je me demandais si vous avez repéré avec les années, presque 30 ans d'écriture maintenant derrière vous, s'il y avait quelque chose d'irlandais dans votre écriture.
You know, James Joyce said, I have been so long out of Ireland.
James Joyce a dit, j'ai quitté l'Irlande depuis si longtemps que j'entends sa voix partout, moi-même. Ça fait tellement longtemps que j'ai quitté l'Irlande que j'entends la voix de l'Irlande où que je sois et quoi que je fasse. S'agissant de mon écriture, il s'agit de rythme, de musique. Je chante mal, mais je chante beaucoup. Donc, je suis le genre de gars qu'il ne faut pas inviter à une fête. Mais dans la littérature que je fais, j'espère qu'il y a de la musique. Et ce que je recommande, entre autres aux jeunes auteurs, c'est qu'il faudrait qu'ils passent leur écrit au gueuloir. C'est ce que faisait Flaubert. Et parce qu'il y a dans le son le rythme, justement. De plus en plus, je me rends compte que ce n'est pas de la littérature que j'écris. J'ai l'impression que j'écris de la musique.
Oui, d'ailleurs, c'est ce qu'écrivait Flaubert dans sa lettre du 22 juillet 1852. Une bonne phrase de prose doit être comme un bon vers, inchangeable, aussi rythmé, aussi sonore. Alors si on part avec un tel objectif, on imagine que la tâche va être rude. Pour revenir à cette dimension nationale ou universelle de l'écriture, je vous propose d'écouter le Britannique Adam Thirlwell, auteur de Candide et Lubrique, paru aux éditions de l'Olivier. Il répond ici à la question de l'internationalité du roman.
International, je crois que oui, pour moi, ça veut dire qu'un roman peut être portable en quelque sorte. Qu'un roman, c'est comme une valise qu'on peut trouver dans une autre location et c'est la même chose. Et donc, pour moi, j'étais vraiment obsédé par cette idée que oui, linguistiquement, c'est unique, mais ça peut pas être vrai parce que oui, si on prend Madame Bovary, c'est un livre très travaillé au niveau linguistique, mais en même temps, on peut le lire en anglais et c'est le même livre. Mais on a perdu les assonances, on a perdu les allitérations et tout ça. Et donc, moi, je voulais me questionner ce qui était cette âme d'un roman qui pourrait se transporter dans des autres langues. Et je crois que c'est intéressant, et oui, cette question de ce qui est nouveau, ce qui est vieux, parce que je pense qu'il y a plusieurs mondes intellectuels et je voulais les rapprocher un peu. Il y a, oui, une tradition de la théorie de la traduction, et aussi il y a le monde des romanciers, et aussi il y a le monde de la lecture. Et je crois que pour moi, ces mondes ne se sont pas rapprochés.
Un des mauvais garçons de la littérature britannique, Adam Thirlwell. Alors, vous le rappelez, Colm McCann, la littérature, c'est aller vers l'ailleurs. Écrire, c'est un voyage. Et pour pouvoir s'échapper en cours de route, il faut avoir une destination en vue. Est-ce que, comme Adam Thirlwell, vous écrivez avec l'envie, l'intention de rapprocher les mondes ?
J'aime bien la notion du parcours de l'explorateur, pas du touriste, de l'explorateur. Donc moi, je me lance dans un voyage. Je sais que je veux aller quelque part. J'ai une destination, je ne sais pas ce qu'elle est. Par exemple, je veux trouver les îles Galapagos de l'imaginaire. On arrive sur ces îles et on ne sait pas ce que l'on va vivre. Mais on rencontre de nouvelles créatures et on essaye de forger une théorie sur la nature humaine à partir de là. Donc pour moi, il s'agit toujours d'une aventure, l'écriture. De plus, j'aime ne pas être moi-même. Je ne veux pas passer 24 heures par jour avec moi-même. Je préfère me trouver dans le territoire, dans le corps de quelqu'un d'autre. Donc, il ne s'agit pas de dire « Dr. Freud, voici ce que je pense hein, », mais j'aime bien emprunter la voix des femmes. Du reste, je crois que j'écris mieux quand j'écris avec la voix d'une femme.
Rainer Maria Rilke, que vous citez à de nombreuses reprises, loue le culte de la fécondité et il juge sans pareil le sentiment que l'on est créateur, le sentiment que l'on peut engendrer, donner forme. Vous partagez la même mystique que lui, la même exaltation du métier d'écrivain, Colm McCann ?
Not really, no.
Pas vraiment, non.
One of the things that I do when I teach in New York,
quand
I get six students
New York,
j'ai
6 étudiants, il y a 600 étudiants qui veulent suivre mes cours et j'en sélectionne 6. Je leur dis, je ne pourrais rien vous enseigner, mais je peux vous donner une seule chose, c'est le feu. Et le feu, bah, c'est quelque chose que Rilke avait, sans l'ombre d'un doute. Il faut pouvoir accéder à ce feu mystérieux. Mais quand on est écrivain, il s'agit simplement de mettre son cul sur une chaise. Et il faut, à ce moment-là, se livrer bataille à soi-même. La vie d'un écrivain, c'est ça. Mais c'est une histoire de discipline avant tout. Il faut faire face à la page blanche, il faut se battre contre le silence et il faut être persévérant, même quand ça se passe mal. D'ailleurs, je dirais que les meilleurs écrivains sont ceux qui, lorsque ça va mal, sont ceux qui savent rester devant leur ordinateur ou devant la page ou devant la machine à écrire, mais on ne peut pas s'échapper. Il faut être persévérant.
Alors l'écrivain qui est celui qui pose son cul sur la chaise, même s'il a envie de tout sauf ça, c'est ce que vous répétez effectivement à plusieurs reprises, votre définition de l'écrivain. Vous nous offrez dans ce livre une vision pas aussi désacralisée quand même de la figure de l'écrivain que vous venez de l'évoquer. Vous rapprochez son travail de celui de l'artisan, l'écrivain à vous lire avant d'entrer en communion avec le perpétuel et l'univers de ce monde et surtout celui qui travaille une matière, comme le boulanger qui malaxe la pâte qui fera pain. Pour l'écrivain haïtien Dany Laferrière, que je vous propose d'écouter, on peut apprendre à écrire mais pas à devenir écrivain. Serez-vous d'accord avec lui ?
Il faut avoir un régime alimentaire et c'est préférable. Si on écrit des sagas, de ne pas manger des choses trop huileuses, et sinon la sieste sera longue. Et il faut être en bonne forme physique aussi. Et donc, pour moi, c'est quelque chose qui peut se faire et aussi être stimulé. Par exemple, les gens qui se mettent ensemble pour écrire ou qui vont dans les écoles pour apprendre. Je ne pense pas qu'on apprend à avoir du talent. Mais je pense que pour être stimulé par d'autres, on vous demande de refaire, et au moins, on apprend à écrire. Maintenant, à devenir un écrivain, c'est-à-dire avoir un regard sur le monde personnel, je ne sais même pas si on peut l'avoir, si c'est dans l'ADN, comme certains semblent le dire. Je n'y crois pas trop à cette superstition. C'est possible aussi, mais je crois aussi qu'à force d'écrire, on peut devenir écrivain. L'un des conseils que je donne, c'est écrire jusqu'à n'avoir plus peur d'écrire. C'est comme quelqu'un m'avait dit, et à propos d'un internet, il m'avait dit, un peu de technique abrutit, beaucoup de technique libère. Et c'est cela, souvent, on se trouve dans une condition moyenne. C'est là que ça devient difficile, et on ne sent pas le résultat, on n'a pas de regard. Mais le nombre d'écrivains, de gens plutôt, de grands talents, qui ont tout ça, mais sans la pratique, sans la capacité de s'asseoir, parce qu'écrire c'est s'asseoir d'abord, il faut s'asseoir beaucoup, il faut écrire beaucoup, donc si on n'a pas cette possibilité-là, bon déjà, on est, quel que soit le génie qu'on possède, on est hors du champ.
On peut apprendre à écrire, mais pas à être écrivain, nous dit Dany Laferrière. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça, que le talent ne s'apprend pas ?
I think that's extraordinarily incisive and correct.
Quelle justesse. C'est très incisif. Quelle pertinence. Il faut de l'endurance. C'est un petit peu l'endurance d'un athlète ou d'un joueur de foot. Il faut avoir la capacité de former son corps et son esprit à cette épreuve physique. Et il faut se confronter à la possibilité de l'échec. Et cette idée de l'échec, moi, ça me stimule. J'aime bien quand Kurt Vonnegut dit « Il faut sauter des falaises et construire nos ailes à mesure que nous chutons ». Et bien moi, j'ai l'impression de vivre ça à chaque fois que je me lance dans un roman. J'ai l'impression de sauter d'une falaise et il va falloir que je me trouve des ailes. et c'est ainsi que je m'envolerai.
Et effectivement, c'est presque un manuel de survie que vous offrez à ces aspirants écrivains. Ne te laisse divertir d'aucune manière avant d'avoir le sentiment d'avoir vraiment essayé, de t'être vraiment battu. Ailleurs, vous écrivez « Bagarre-toi encore et encore, si tu te bats suffisamment, le mot juste se présentera ». À quoi elle ressemble votre vie à vous d'écrivain, Colm McCann?
Well, you know, here's my perfect day.
Voilà, je vais vous raconter ma journée parfaite.
I would get up at 5 o'clock.
Je me lève à 5 heures du matin.
Not even have a coffee or internet.
Pas de café, rien.
Stumble into my office.
J'arrive dans mon bureau.
Still in my dream world.
Je suis encore en train de rêver, ou de rêvasser, et j'écris pendant 2 heures sans m'arrêter, sans internet, sans journal, sans enfants, sans rien. Donc, dans un monde onirique. C'est l'idéal. Ensuite, je me lève, si je puis dire. Je vais me faire un café, je vais marcher dans le parc, je vais me promener le chien, j'emmène les gamins à l'école, puis je reviens et j'écris pendant encore 3-4 heures. À ce moment-là, je déjeune, je fais de l'exercice physique, ça c'est pas une mauvaise idée, peut-être que je peux courir dans Central Park. Hein. Et puis vers 16 heures, j'ouvre la première bouteille de la journée. Et là, je me verse un verre de vin, un verre seulement. Puis je regarde ce que j'ai écrit au cours de la journée. Et puis après, je peux travailler même jusqu'en début de soirée. Donc ça, c'est la journée idéale. Cette journée idéale n'existe pas. Hein.
L'écriture est un sport de combat à vous entendre, Colm McCann. Quand vous avez essayé d'écrire pour la première fois, quand vous aviez 20 ans, ça a tout de suite été facile. Vous avez tout de suite su que vous étiez écrivain.
Non, I mean, I wallpapered a whole room with rejection slips.
Non, moi j'ai eu des tas de lettres de refus d'imprimeurs et je m'en suis servi pour faire du papier peint. J'ai écrit 2 livres qui n'ont pas été publiés. C'est atroce d'ailleurs, ces manuscrits. C'était bien cet échec, ça m'a fait du bien, ces 2 échecs. Puis j'arrive vers l'âge de 25 ans et j'étais sûr que je ne serais jamais publié. Et puis après, la chance m'a souri. J'ai publié une nouvelle dans un magazine. Il y a un agent qui a vu ça, un éditeur aussi. Et tout à coup, j'ai fait un recueil de nouvelles et ensuite, je me suis mis à écrire. Mais pour la plupart des écrivains, il y a cette peur d'être révélé au grand jour comme étant un charlatan. À chaque fois que je termine un roman, je suis convaincu que je ne pourrai jamais, au grand jamais, me relancer dans cette entreprise. Parce que c'est épuisant. À la fin du roman, moi, je suis épuisé. Par conséquent, je suis persuadé qu'il ne se passera plus rien. Puis, je me mets à lire de la poésie, puis je réfléchis, il me vient des idées. Et puis, évidemment, je me lance dans un nouveau roman avec une nouvelle idée. À l'heure actuelle, je suis en train d'essayer d'écrire un roman sur Israël et la Palestine. C'est vraisemblablement la tâche la plus ardue dans laquelle je me suis jamais lancé, non seulement sur le plan politique, mais il faut que je me rende sur place plusieurs fois, que je m'immerge dans de nouvelles cultures, dans de nouvelles façons de penser. Et dans ce livre aussi, qui vient de sortir, je cite Nathan Englander, écrivain juif qui vit aux États-Unis. Il dit « L'inexécutable, c'est la seule chose qui m'intéresse. » J'adore cette notion de se lancer dans l'impossible.
Et vous citez aussi Oscar Wilde, « Notre seul devoir envers l'histoire est de la réécrire ». Alors comment vous regardez l'époque sur la place des écrivains dans la société? Votre constat est plutôt sévère. Nous ne considérons plus les écrivains comme nous le faisions quelques décennies plus tôt. Personne ne craint ce que nous avons à dire. Pourquoi nous avons laissé nos voix se déprécier au bénéfice du confort? Notre boussole éthique est déréglée. Nous avons cédé devant la neutralité, géolocalisée à outrance. Nous ne savons plus nous perdre. Ça, c'est une des faiblesses pour vous, de l'écrivain d'aujourd'hui. Et pourtant, vous vous présentez quand même comme un écrivain engagé. Écrire est l'expression d'une parole libre contre le pouvoir. Vous avez le sentiment de toujours en faire l'usage aujourd'hui avec votre plume, Colm McCann.
Yeah, this is really important right now. Writers increasingly have to speak truth.
Cela c'est particulièrement d'actualité. Face au pouvoir, il faut savoir dire la vérité quand on est écrivain. Prenons les États-Unis. On essaye de faire taire les journalistes, les gens qui écrivent. Et il y a eu des autodafés. Et les gens de ce gouvernement Trump ne savent même pas ce qu'est un livre, ne connaissent pas le pouvoir d'un livre. Donc la voix de l'écrivain, c'est de plus en plus important. Et je crois qu'il faut travailler à partir d'un besoin intérieur incroyablement fort pour décrire les atrocités que l'on vit et que l'on voit à l'échelle mondiale. Donc la voix de l'écrivain est très très importante. Et cela anime, ça m'anime, ça donne feu à mon âme. Je ne vais pas écrire sur Trump maintenant parce que c'est trop pour moi. Mais dans quelques années, je crois que j'essaierai de déchiffrer cette espèce de farce dont il a fait les États-Unis. Une farce, oui, c'est bien ça.
Auteur de Danseurs et de Transatlantique, lauréat du National Book Award, et que le vaste monde poursuive sa course folle, tous traduits et édités chez Belfond, disponibles aussi en 10-18, l'écrivain irlandais Colm McCann est notre invité pour Lettre à un jeune auteur.
France Culture, La Grande Table, Olivia Gesbert.
Quel rapport à la vérité l'écrivain honnête doit-il entretenir ? Décédé l'an passé, l'écrivain britannique John Berger, l'un de vos héros, Colm McCann, évoquait son envie d'écrire sur ce qui n'est pas encore entré en littérature.
Je crois que l'imagination existe dans mes livres. Oui, et si on parle de Jay, bon, ça c'est un livre dans un certain sens, même si la forme de narration est un peu spéciale, mais c'est un roman, avec les personnages inventés, si vous voulez. C'était pas un livre autobiographique non plus. Et c'est un livre de, comme je le vois, de l'imagination, mais c'est pas une chose que je réclame spécialement. Parce que si l'imagination est là, ça doit être presque invisible. Et c'est là, dans la langue, c'est là, dans ce qu'on essaie de communiquer. Et toujours d'essayer ces choses qui ne sont pas encore communiquées. Je cherche pour l'innocence, je ne suis pas sûr. Mais ce que je cherche, c'est de ramasser et mettre en forme littéraire toutes ces parties de l'expérience humaine. Et ils sont une multitude, ils sont l'infini, qui ne sont pas encore entrés dans la littérature.
Dans la fiction que Colm McCann vous préférez, semble-t-il, la vraisemblance à la vérité. Inventer ne revient pas à raconter des mensonges, loin de là, mais à remodeler l'authentique, écrivez-vous. Inventer plutôt qu'emprunter. Néanmoins, dans la plupart de vos romans, et c'est le cas dans 13 façons de voir, dans Transatlantique, c'est aussi le cas dans Et que le vaste monde poursuive sa course folle, vous ne cessez de vous plonger dans la tête et dans la peau de vos héros. Souvent, ils ont existé. Ainsi, dans Danseurs, où vous retranscrivez la jeunesse, les dilemmes, les pensées les plus intimes du danseur Rodolphe Nureyev. Nureyev devient ici votre Nureyev, un Nureyev de fiction, et plus vrai pour vous que nature. Est-ce que vous avez sentiment de lui avoir redonné vie par vos mots à Rodolphe Nureyev?
That's a question that has haunted me for the past 20 years.
Cette question me hante depuis 20 ans. Quelle est la différence entre ce qui est réel et ce qui est imaginé? Il me frappe que le réel est imaginé et que l'imaginé est réel. Et si l'on arrive à maintenir ces deux univers dans nos mains, on arrive à l'essence de l'âme humaine. Lorsque j'imagine Nureyev et sa vie, ses amis viennent me voir en disant « Mais qui avez-vous interrogé? Comment vous saviez tout ça sur Rodolphe Nureyev ?» Et moi, je dis, moi, je ne savais rien sur Rodolphe Nureyev. Tout cela, je l'ai imaginé. Et ses amis m'ont dit, mais cette imagination, elle était fort juste. Et moi, j'ai dit, mais peut-être que j'essayais d'être honnête. Je me suis emparé des facettes, de quelques aspects de sa vie, mais je les ai... Je leur ai donné une texture. Et du point de vue politique et culturel, il est important de voir que les faits sont des mercenaires. Vous pouvez envoyer vos faits où vous voulez pour les charger d'une tâche de votre choix. c'est une chose. Mais moi, ça ne m'intéresse pas tant. Je m'intéresse plus à la texture. C'est lié à l'imagination. Les faits sont liés à la réalité. Et là, on a une distinction très importante que les écrivains doivent connaître. Nous devons être honnêtes. C'est très important de toucher l'essence de l'honnêteté. Parce que autour de nous, dans le domaine de la politique, du commerce, dans le domaine de l'école même, et on voit de la malhonnêteté.
Première ligne de Transatlantique, le cottage était planté au bord du lac. Elle entendait le vent battre la pluie tout au long de la surface, frapper les arbres et muscler l'herbe. Première phrase de Danseur. Quatre hivers, ils construisaient des routes en brisant les congères armées de leurs chevaux. Ils labouraient la neige jusqu'à ce que les bêtes meurent, puis ils mangeaient leur chair avec une grande tristesse. Et première phrase de Mémoire, Colm McCann, de Et que le vaste monde poursuive sa course folle.
Those who saw him hushed.
Ceux qui l'ont vu se sont tus, sans savoir exactement si c'est ça la traduction en français.
Ceux qui l'ont vu se sont tus. Vous écrivez, Colm McCann, la première phrase doit frapper à la poitrine. Elle est très importante. Alors on ne sait pas si vous l'écrivez toujours en premier, cette première phrase, ou si vous terminez l'écriture du livre en reprenant au tout début.
I don't write it last.
Non, je n'écris pas la première phrase en dernier, mais ce n'est pas forcément la première chose que j'écris dans un roman. Parfois, il faut écrire 30, 40, 50, 60 pages avant de trouver la première phrase. Mais c'est comme en musique. Quand on est musicien, on joue de la guitare et puis on cherche la bonne note. Et cette bonne note qu'il faut, la note juste, lorsqu'on la trouve, et bien c'est là qu'on a trouvé la chanson.
Et on imagine que pour l'écrivain ou pour le roman, la dernière phrase est tout aussi importante, l'attaque et la chute, qui doit vous laisser quoi? Si la première phrase doit frapper à la poitrine, la dernière doit vous laisser le souffle
coupé. Last sentence should break your heart.
La dernière phrase doit vous briser le cœur.
In transatlantic,
dans Transatlantique, la dernière phrase, c'est
« Thank the world for not ending on us ».
Nous devons remercier le monde de ne pas nous laisser en plan.
Yeah. Well, and here's the thing about translation. It's so
ah oui, on parle de traduction. C'est très difficile, l'art de la traduction littéraire. Alors, un hommage aux traducteurs et traductrices. Jean-Luc Piningre, en l'occurrence.
J'ai la dernière phrase de Transatlantique. Enfin, je me suis assise auprès d'eux, leur silence bordé de tendresse. Le monde a cela d'admirable qu'il ne s'arrête pas après nous.
Ah, c'est voilà plus facile en traduction littéraire qu'en interprétation simultanée.
Colm McCann, on imagine donc que la dernière phrase d'une interview est tout aussi importante aussi que la première phrase d'une interview. Essayez de nous briser le cœur avec cette question que je vous pose pour finir. Qu'est-ce qui pourrait vous faire arrêter d'écrire?
I will say this. Death takes away a lot of things, but it cannot take away our
stories. La mort retire de nombreuses choses, mais la mort ne peut pas nous retirer nos récits.
Colm McCann, merci beaucoup.
Merci beaucoup à vous.